Mais non, mais on aura nos rires en...
Ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement, le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime dire travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Après amour, toujours, il y a la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piole. Écoutez Radio Pium et aujourd'hui on va parler du fait de ressurgir, ou plus précisément de la résurgence, puisque aujourd'hui c'est nous qui ressurgissons. Bonjour Maëlle.
Bonjour Marianne.
Donc nous allons aborder ce thème qui, nous le pensions, était assez approprié avec ce retour de Radio Pium, cette rentrée radiophonique et scolaire. Et donc voilà, on va discuter de ça, on va décortiquer ce sujet philosophiquement comme nous savons si bien le faire.
Exactement. On va peut-être commencer par un petit point sur l'étymologie, comme d'habitude. Donc, ressurgir, c'est composé de deux instances linguistiques. Re, qui est un préfixe réitératif, et surgere, en latin, qui signifie juste se lever. Et donc, ça a créé ressurgere, qui veut dire se relever. Mais en latin, il y a quand même la connotation de relever un obstacle, un défi. Genre, c'est pas juste se relever, c'est quand même faire un effort un peu violent, un peu coûteux pour soi-même. Voilà.
Donc il y a déjà la dimension un peu de la résilience aussi,
ah, c'est ça.
Qui est propre à cette définition latine, l'idée qu'on va outrepasser un obstacle, quoi.
C'est ça. Donc ressurgir, ça évoque quand même le retour d'un élément, enfin le retour surprenant d'un élément disparu, silencieux ou tout simplement oublié, et que le retour de cet élément-là provoque quand même un sentiment d'étrangeté par cette surprise, par cet étonnement.
C'est peut-être là aussi, du coup, ça crée une forme de décalage entre la réalité et l'apparition de ce nouvel événement qui vient, du coup, chambouler, on va dire, le cours des choses.
C'est ça.
Peut-être. Et donc, il y a un effet de surprise, on pourrait dire, et un effet peut-être d'imprévisibilité. On ne prévoyait pas la réapparition de cette chose et elle ressurgit.
Parce qu'il y a un côté inanticipable et à la fois un côté cyclique, on pourrait dire, de ressurgir, de la résurgence en général, comme par exemple dans les malédictions, des tragédies antiques, etc. Comme ce que tu disais, Marianne, hein, celle qui m'a donné l'idée. voilà, on a quand même à la fois ressurgir, c'est quelque chose d'inanticipable, et à la fois tout le monde comprend ce que c'est. Mm-hmm. Tout le monde expérimente un jour le fait de ressurgir, pas forcément soi, mais on voit toujours des choses ou des personnes ressurgir. Mm-hmm. Et c'est pas un événement isolé, unique, que personne n'expérimente, quoi.
Et est-ce que réellement il y a des gens qui n'expérimentent pas le fait de ressurgir, ne serait-ce que même ressurgir à soi?
Oui.
Et parce qu'il y a peut-être des moments aussi, on se posera cette question-là en tout cas, des moments où on a l'impression de réapparaître à soi et de se retrouver peut-être aussi.
Après une période de censure de soi-même, d'oubli de soi, etc., etc. Donc on va voir qu'au final, ce qui différencie, parce qu'il est peut-être aussi temps de faire quelques distinctions, ce qui différencie ressurgir de simplement revenir ou la résurgence du simple retour, c'est que dans les deux cas, tout évolue. La pure répétition, elle n'existe que dans des considérations très abstraites comme la métaphysique, la musique, les mathématiques. La répétition pure dans l'humain, elle n'existe pas vraiment puisqu'on évolue en permanence. Mais ce qui distingue donc le retour de la résurgence, c'est qu'il y a quand même quelque chose de soudain, de très surprenant, de brutal, parce que justement on a été silencié, on a été forcé de ne pas s'exprimer, puisqu'on a aussi vu que ressurgir pouvait signifier se refaire entendre à nouveau,
ouais,
après avoir été silencié. Donc il y a quand même cette idée de devoir relever le défi de revenir. Mmh. Voilà.
Et donc on pourrait peut-être se demander aussi si on ne peut pas lier ce terme de ressurgir à la résurrection, mmh, puisqu'on parle de la résurgence beaucoup, mais est-ce que la résurrection, ce ne serait pas aussi une forme peut-être plus extrême de résurgence? Et finalement, d'après mes recherches, je me suis rendu compte que ça n'avait pas la même racine latine et que résurrection, c'était plutôt... il me semble que la racine latine, c'est resurrectio, mmh, et que ça veut dire se lever. Mais en fait, la différence, la nuance qu'on peut apporter, cette distinction qu'on peut faire entre résurgence et résurrection, c'est que la résurrection, c'est un peu le fait de ressurgir, mais de manière vraiment extrême, dans le sens où la chose qui ressurgit était morte et était complètement disparue.
Ouais, c'est une renaissance absolue, transcendante. C'est pour ça que c'est très connoté religieusement.
Voilà. Exactement. Et donc, on pourrait aussi se concentrer sur ce terme-là et se demander c'est aussi une forme de ressurgissement intéressant à étudier, et si la résurrection est possible, et est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans le monde actuel, ou est-ce qu'il y a une forme de mysticisme autour qui perdure,
c'est entre ça, guillemets. Exactement. On peut commencer déjà par se demander quelle est la nature de ressurgir. De quoi s'agit-il réellement? Est-ce qu'elle concerne un objet, un sujet? Dans quel cas est-ce qu'il y a une altération? Qu'est-ce qui produit la surprise, etc. Donc là, on va commencer par des considérations assez simples. Et comme je l'ai un peu dit en introduction, ressurgir, ce n'est pas simplement revenir. Auquel cas, il n'y aurait pas de changement explicite, on va dire, dans la nature de l'objet ou du sujet en question. Donc on va se demander en fait comment se produit ce changement, comment il survient. Donc ressurgir, comme le présuppose son origine latine, désigne un retour compliqué, compliqué par des circonstances qui peuvent être diverses, on va dire. Mais ressurgir peut s'entendre pour moi en deux sens, au sens où c'est un objet ou est-ce que c'est un sujet qui revient. Quand on dit par exemple pour les objets d'une mode qu'elle ressurgit, les vêtements tels quels ils n'ont pas changé, mais le contexte aussi, et c'est ça qui produit ce décalage du ressurgissement. D'où l'étonnement que le retour de tels vêtements peut susciter en fait. Donc dans le cas de la mode, c'est le contexte a changé, et non la teneur de l'objet en soi. Un objet, de toute façon, ne s'altère pas tout seul. C'est la définition de l'objet, c'est inanimé. Mais il n'y a pas que les modes, il y a aussi retrouver de vieux objets chez sa grand-mère, etc. Ou retrouver une photo, et là c'est le passé qui ressurgit. Mais là, l'altération, elle se produit vraiment au niveau du contexte et de l'observateur du ressurgissement. Mais de l'autre côté, quand on dit de quelqu'un qui ressurgit, pour diverses raisons, monsieur un tel est retourné dans le village après avoir excommunié ou exclu, pour différentes raisons, départ précipité, disparition, emprisonnement, enfin voilà. Toujours des gens qui ressurgissent pour X raisons. Le contexte, il aura certes changé, parce que dans tous les cas, un contexte, ça évolue, mais bon, le contexte là, il se mesure quand même à la mesure d'une vie humaine, d'une génération, contrairement aux modes ou aux objets anciens, etc. Et là, en fait, il s'agit surtout du changement du sujet en question, parce que comme on l'a un peu dit en introduction, ressurgir implique d'avoir relevé une difficulté, d'avoir rencontré une certaine violence, un certain obstacle qu'on soulève littéralement, on soulevait l'obstacle. Et donc, même si je reconnais la personne qui ressurgit, on se rappelle qu'elle a relevé cet obstacle-là et qu'elle s'est forcément renforcée d'une manière ou d'une autre. Je sais pas ce que tu en penses, Marianne.
Complètement, mais du coup, on pourrait dire en fait que dans tous les cas, ressurgir, ça implique l'action humaine. Oui, c'est-à-dire que c'est soit en fait la personne qui va faire ressurgir quelque chose. Et même si on a l'impression parfois que c'est le passé qui se présente à nous quand on retrouve un vieil objet dans le grenier de nos grands-parents, des photos, etc. En fait, c'est nous qui voyons, en fait, qui mettons du sens dans cette résurgence. Et donc, il y a ce truc de... c'est le sujet qui fait ressurgir l'objet.
Voilà, c'est ça.
Ou alors, c'est le sujet qui décide de ressurgir lui-même, par lui-même, entre guillemets. Donc, dans les deux cas, il y a une forme... c'est un peu le propre, en fait, peut-être aussi de l'humain et sa volonté de donner du sens et de mettre du sens dans tout, quoi.
Ouais, un peu des instances narratives, quoi. On narrativise un peu tout, et je pense qu'on est déjà un peu parlé dans d'autres podcasts.
Ouais.
Cette fiction de la réalité qu'on tisse en permanence. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu dis que dans le cas de l'objet, l'action humaine fait ressurgir. Mmh. Mais dans le cas du sujet, il peut décider de revenir, mais est-ce que lui-même a l'impression de ressurgir?
Est-ce qu'il se dit consciemment « je ressurgis » ?
Parce qu'en fait, dans le cas de l'objet comme du sujet, y a un observateur ou une observatrice qui va dire « il s'agit d'une résurgence ». Je ne vais pas le dire de façon aussi explicite. Mais,
oui.
dans les deux cas, en fait, on ne ressurgit pas vraiment tout seul, même si on décide de revenir quelque part. Par exemple, si demain, je décide de quitter ma famille et de revenir... pardon, ma famille qui m'écoute. Mais si je reviens 10 ans plus tard, je ne sais pas si j'aurais l'impression de ressurgir.
Du coup, on pourrait dire, en fait... Ouais. Soyons sérieux. On pourrait dire, en fait, que finalement, ça implique le regard d'un observateur extérieur. C'est-à-dire que c'est toujours l'observateur qui va constater le ressurgissement, la résurgence, comme on pourrait observer, par exemple, une rivière qui ressurgit de part et d'autre d'une montagne.
Qui est d'ailleurs le premier sens de résurgence. Hein. Très lié à l'eau, hein, le fait de jaillir.
C'est l'idée de jaillir, en fait. C'est l'idée, par exemple, et c'est peut-être intéressant de souligner cette image. Oui. On peut imaginer, par exemple, un ruisseau qui passe le long d'une montagne et puis qui disparaît sous la terre et qui ressurgit de l'autre côté, en fait.
C'est ça.
Et c'est exactement ça. Et du coup, c'est en ça que on peut dire que c'est pas comme revenir ou répéter, puisqu'en fait, le ruisseau, il suit son cours et il n'est pas le même. Enfin, on va dire que c'est la même eau, mais elle est changée, elle est altérée, parce que peut-être qu'elle a récupéré des cailloux au passage, peut-être qu'elle a repéré...
Elle a vécu une période sombre sous la terre, en vrai. Enfin, c'est très imagé, cette résurgence aquatique. Et c'est vraiment le premier sens. Ouais. C'est de base vraiment un concept hydraulique, quoi. Mais d'ailleurs, Gilles Deleuze en parle dans... différence et répétition, mais à mon sens, donc en gros, il explique que la résurgence c'est une répétition, mais
répétition
pas
différente.
Au sens strict, voilà, une répétition différente qui se manifeste sous une autre forme, tout simplement. Après, je trouve qu'il souligne pas assez la brutalité de la résurgence, puisqu'en fait, on l'a un petit peu dit, il y a pas de répétition au sens propre chez les humains. Même si on a une habitude, même si on fait toujours la même chose, la balade elle sera jamais la même. C'est pas comme en mathématiques ou en musique ou en rythme où tu fais des répétitions. De toute façon, et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer revenir de ressurgir chez les humains. Parce que oui, en fait, on refait des choses en permanence, on revient en permanence, mais là, il faut vraiment souligner cette dimension de...
Ouais, l'image de... L'image, du surgissement, en fait, elle est quand même très forte parce que, encore une fois, si on reprend l'image de la rivière, elle est inarrêtable.
Ouais.
En fait, il y a ce truc de... Elle va ressurgir de l'autre côté de la montagne, mais elle va suivre son cours, et c'est vraiment... Je pense que ça rejoint aussi l'idée que c'est vraiment inscrit dans un contexte temporel et qu'en fait, le temps est inarrêtable. Enfin, et qu'en fait, irrémédiablement, on ressurgit d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est comme ça en tout cas, qu'on perçoit la résurgence. Je pense que c'est dans cette capacité aussi à surprendre et donc à... Enfin, il y a une sorte de... Je ne sais pas si c'est une sorte de nécessité, mais peut-être a posteriori aussi, on donne une sorte de nécessité à cette résurgence-là.
Oui.
Voilà.
Puisqu'on parlait des observateurs et des observatrices de la résurgence, on peut maintenant s'interroger sur l'intérêt de ressurgir et par corrélation sur les sentiments que cela peut produire chez autrui. On a quand même l'impression que ressurgir implique une certaine puissance puisque ça veut dire relever un défi, revenir après avoir relevé un défi. Donc on pourrait quand même mettre en lien le fait de ressurgir avec l'affirmation d'une certaine puissance d'être, une certaine puissance tout court, et mettre ça en lien avec divers concepts philosophiques.
En effet. D'abord, on pourrait penser peut-être à l'idée que ressurgir, c'est quelque chose de proprement vivant, quelque chose qui est propre au vivant, en fait, et quelque chose qui permet au vivant d'affirmer, en fait, sa capacité à être, à persévérer dans l'être. Et j'entends par là... On pourrait faire référence en fait au conatus, la notion de conatus qui est théorisée par Spinoza, notamment dans l'éthique, qui est donc l'idée que le vivant serait mu par une force qui, enfin un principe en fait, qui les pousse à persévérer dans l'être, à faire cet effort-là, conscient ou inconscient en fait, de tendre toujours vers la vie et vers la continuation de cette vie. Et en fait, le fait de ressurgir, ça serait peut-être une manière de réaffirmer finalement. Consciemment ou inconsciemment, encore une fois, cette capacité à vivre et à persévérer dans l'existence. Et donc, alors que parfois, en fait, on pourrait rencontrer des obstacles, et c'est ce dont on parlait aussi avec l'idée de résilience avant, il y aurait cette idée de réaffirmer, en fait, de dépasser cet obstacle-là et de ressurgir dans sa capacité à être et à s'affirmer comme un être vivant, globalement.
C'est ça, je suis d'accord avec tout ce que Marianne vient de dire. Après, il faut quand même préciser qu'on ne réduit absolument pas la résurgence au conatus.
Bien sûr.
Le conatus, c'est le principe qui meut le vivant, et le vivant est toujours plus ou moins confronté à des obstacles qu'il relève.
Ouais.
Et on dit le vivant, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas réduire la résurgence à l'humain. En fait, ce serait une façon un peu anthropocentrée de voir les choses, sachant qu'il y a des choses très surprenantes qui se produisent dans la nature.
Ouais.
Résurgence, bon, on a parlé de la rivière, mais pense des phénomènes un peu étranges d'adaptation, ou même, je sais pas, des trucs qui restent en vie, qui sont pas censés rester en vie. On parle vraiment quand même d'une certaine zone dans le Conatus, mais qui est quand même très significative par rapport à la condition du vivant.
Et puis en fait, si on voit le vivant dans la globalité, le vivant ne cesse jamais de ressurgir.
C'est ça. Dans le vivant est quelque chose de très surprenant.
Voilà, dans l'idée que, admettons, une biche va mourir, un autre être vivant va s'en nourrir, et peut-être que la biche va se décomposer dans le sol et qu'il y a des plantes qui vont pousser.
Bon, ça, du coup, je trouve que c'est un phénomène assez normal.
Mais du coup, c'est normal, mais du coup, on pourrait voir en fait une forme de résurgence aussi là-dedans. Mm. Dans l'idée que si on pense vraiment le Conatus et on pense vraiment cette puissance de persévérer dans l'être et dans le vivant, si on voit vraiment le vivant comme une forme de globalité, et si on pense les écosystèmes comme des complexes vivants en eux-mêmes, bah, y a cette idée en fait que du coup, les végétaux, par exemple, vont se nourrir de la décomposition d'autres être vivant, et donc le vivant va ressurgir à travers ces végétaux. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors oui, moi je suis complètement d'accord avec ça, cette idée de renaissance un peu perpétuelle de la nature, qui a quelque chose de très beau et de très poétique aussi, mais je trouve que là on perd vraiment la connotation brusque de ressurgir.
C'est vrai.
C'est la seule limite du truc. Moi, je pensais ressurgir par rapport au vivant. On a dit le vivant, ça implique
la capacité d'adaptation des animaux, par exemple.
Ouais, et encore ça reste un truc assez normal, mais moi je pensais vraiment à des phénomènes plus surprenants. Malheureusement, j'ai des capacités très faibles en biologie, je peux pas vraiment donner d'exemples, mais je pense qu'il existe beaucoup d'exemples de trucs très surprenants qui peuvent se produire dans la biologie, sans être pour autant... En fait, la biologie n'est pas forcément quelque chose de très mécanique. On va se dire pourquoi elle parle, cette meuf, elle est en philosophie, mais on fait bien de la philo des sciences en philosophie, et je peux vous assurer qu'il y a pas seulement la conception mécaniste de la biologie, mais aussi la conception poétique de la biologie. Ouais. Alors j'ai plus les noms en tête, mais voilà, la biologie c'est quelque chose qui s'autocrée, etc. Donc il peut y avoir des phénomènes extrêmement étranges et surprenants dans la nature.
Anormaux finalement, des anomalies.
Et c'est pour ça, en fait, on voit quand même que ressurgir s'écarte d'une certaine norme.
Ouais.
Là où la
résurgence, c'est qu'il y a un décalage,
voilà,
en fait.
C'est ça, la résurgence que tu décris par rapport aux écosystèmes, la biche qui devient plante. Désolée, je rigole
pas. Non, mais c'est une belle métaphore, c'est vrai.
C'est une belle métaphore et à la fois elle s'inscrit dans une certaine norme parce qu'il y a quelque chose de très cyclique dans la nature dans tous les cas.
Mais en même temps, il y a bah, par exemple, typiquement, en effet, moi non plus, je suis pas une spécialiste en biologie, mais l'idée que bon, la nature prend toujours ses droits, etc. Tchernobyl.
Voilà, ça c'est un
exemple. Catastrophe nucléaire. Et pourtant, voilà, réapparition d'écosystèmes nouveaux, même apparition du coup. On peut dire qu'il y a le ressurgissement du vivant, et en même temps, c'est le vivant qui s'est adapté à quelque chose
d'imprévu,
quoi.
Une très belle image.
L'idée que maintenant, quand on se promène dans la ville, parce qu'on peut encore, se promener, en fait...
Il y a des gens qui y habitent.
Il y a des gens qui y habitent. Bon, après, il y a une partie de la ville qui n'est pas irradiée, quand même. Mais dans la partie qui a été irradiée, etc., il y a beaucoup d'images assez intéressantes de... la nature qui a envahi en fait les endroits qui ont été détruits par l'explosion, et en fait le vivant qui a créé des nouvelles formes,
c'est ça,
enfin des je sais pas exactement, je saurais pas donner d'exemple précis, mais je sais qu'il y a des nouvelles espèces qui sont apparues suite à cette catastrophe nucléaire.
C'est ça.
C'est sacrément intéressant, au final.
C'est assez intéressant de parler du vivant comme ça, même si ça peut paraître éloigné du sujet, a priori.
Ça, c'est proche.
Parce qu'en fait, on ne peut pas réduire le vivant, le biologique, à du pur cyclique, de la pure répétition, du pur mécanisme, comme on le fait parfois, en fait, hein, quand on ne réfléchit pas vraiment aux enjeux du vivant. Et en fait, on voit quand même que la nature, elle est à la fois très cyclique, mais d'une cyclicité évolutive.
Elle rebondit.
Elle rebondit, elle crée des... Et on parle vraiment de cette création du vivant qui se produit parfois et qui après s'inscrit dans la norme.
Ouais.
Mais il y a quand même un moment de... des moments de créativité, en fait.
Et il y a un moment de surgissement, en fait.
Pourquoi ça, c'est aussi... Ouais. Bah, après, on découle nous-mêmes. L'humanité découle évidemment de ce vivant et tout. Mais sans opposer nature-culture, hein, de manière très, très, très infertile, juste, on crée aussi des dispositifs. On crée du civilisationnel, du technique, comme voilà, Tchernobyl, c'est des mots très abstraits pour désigner des industries, etc. Ouais. Et la nature se réadapte ensuite aux catastrophes qu'on produit nous-mêmes.
Et en fait, du coup, elle ressurgit d'une manière inattendue. Et c'est ça qui crée le décalage et l'effet surprise, c'est que c'est aussi, du coup, on pourrait dire, la résurgence, c'est une apparition, finalement. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui revient dans une certaine dimension, ça reste quand même l'apparition de quelque chose de nouveau. Parce que c'est... quelque chose qui existait déjà, mais qui apparaît sous une nouvelle forme, finalement.
Dans la nature, donc on a parlé du vivant avec Spinoza, parce qu'en gros, le Conatus désigne pas seulement les humains, mais comme vous l'aurez un peu compris, je pense, tous les êtres animés.
Ouais.
Et en philosophie antique slash moderne, il y a quand même cette idée que tout ce qui est vivant est mu par une âme et donc a des désirs, même pour saint Thomas d'Aquin, même la pierre a des désirs. Et je pense que Spinoza n'est pas très éloigné de ça, avec ce qu'on connaît tous. Voilà, donc ça c'était une conception quand même assez naturelle et tout, du ressurgir, mais j'aimerais quand même, enfin moi ça m'a fait penser aussi à un autre concept philosophique très connu qui est la volonté de puissance chez Nietzsche. Mm-hmm. Nietzsche est beaucoup plus contemporain, donc lui il ne pense pas l'âme chez les animaux ou les pierres, il pense vraiment la volonté de puissance chez les humains, et je trouve que ressurgir se rapproche quand même de ce concept de volonté de puissance, puisque la volonté de puissance chez Nietzsche désigne, pareil, une persévérance dans l'être, mais pas seulement. C'est pas juste persévérer dans son être et atteindre le bien comme chez Spinoza, puisqu'en fait chez Nietzsche le monde est binaire, constitué d'esclaves et de maîtres. Hein. Je veux pas être trop grossière, mais en fait, pour nous être quand même vachement renseignés sur Nietzsche, hein, voilà, le monde est quand même constitué de façon binaire. Il y a les maîtres et les esclaves, et ce qu'en gros les esclaves ont tendance à ressentir du ressentiment, à s'abaisser à l'autorité et à ne pas affirmer leur être. En fait, Spinoza penserait le conatus chez tout le monde, là où pour Nietzsche, tout le monde n'a pas une volonté de puissance. C'est... Et chez Nietzsche, pour être un boss, il faut être un maître, il faut affirmer sa volonté de puissance au détriment des autres. Et en fait, Nietzsche pense la violence de façon très biologique aussi. Pour lui, la violence, elle s'impose de façon nécessaire, puisqu'il faut bien se faire sa place, en fait, se faire sa place au soleil, quitte à écarter les autres, etc. Et en fait, ressurgir, pourquoi je parle de ça, donc là, c'était juste une petite image de la philosophie nietzschienne. Dans ressurgir, il y a quand même cette idée de venir se réaffirmer. Là j'aimerais affirmer et je vais provoquer de l'effroi, je vais provoquer de l'étonnement, de la surprise, de la tristesse peut-être,
et la volonté en fait de s'imposer.
C'est ça. Je me réimpose alors qu'on m'a excommunié, je me réimpose alors qu'on m'a silencié, qu'on m'a oublié, qu'on m'a dit de partir, etc. Et c'est ça l'obstacle ultime, parce que du coup chez Nietzsche il y a aussi l'idée qu'on peut pas affirmer sa volonté de puissance sans relever des obstacles. La vie est faite d'obstacles, donc les obstacles c'est non seulement écarter les autres mais aussi leur imposer ses idées, sa propre volonté de puissance, tout simplement.
Et ce qui nous permet de déterminer si on a une volonté de puissance ou pas, c'est justement notre capacité ou non à dépasser ces obstacles-là et à écraser les autres.
C'est ça. En fait, il est quand même assez... ce processus-là. Exactement. Il est assez darwiniste, hein, Nietzsche. Enfin, cette très idée que... Voilà, très hiérarchique.
Une manière de penser, ouais.
Et pour Nietzsche, voilà, le droit, la loi, etc. C'est pour
les forts et les faibles.
Voilà, il y a les forts et les faibles. Et je pense qu'on n'est pas manichéennes en disant ça, parce que c'est, vous n'avez qu'à lire Nietzsche pour le voir, même s'il y a des très belles choses chez Nietzsche.
Il y a des spécialistes de Nietzsche qui ne seront pas d'accord avec nous.
Mais... Voilà, évidemment. Et on peut pas, c'est vrai, juste parler de ça. Il n'y a pas que du mal dans la volonté de puissance. Il faut savoir.
On est un peu réductrice, mais c'est parce qu'on le prend sous un angle particulier aussi, qui est quand même cet angle. En tout cas, c'est comme tout, je veux dire, un ouvrage, on peut l'interpréter de plein de manières différentes, mais il y a quand même... c'est l'idée à la fois que, du coup, on peut se construire en tant qu'individu à travers cette volonté de puissance, qui est quand même pas une idée forcément péjorative.
Oui, voilà, c'est pas forcément péjoratif. Là, on avait quand même envie de souligner le fait de s'imposer aux autres. C'est pas forcément quelque chose de très négatif, mais c'est vrai que l'avantage de la pensée nietzschienne, c'est qu'elle réhabilite un peu l'orgueil et l'amour de soi. Là où c'est, en fait, l'amour de soi, ça a quand même été dévalorisé pendant des siècles et des siècles de philosophie. Et Nietzsche réhabilite quand même un peu cette idée qui est pas fondamentalement mauvaise du tout.
Et il se sent peut-être aussi obligé de le faire d'une manière très forte, et c'est pour ça, aussi...
très radicale.
Parce qu'il y a vraiment la volonté de marquer une rupture avec cette philosophie qui l'a précédée, quoi, finalement.
C'est ça, un peu la philosophie qu'on décrivait avec Spinoza, Aristote, saint Thomas d'Aquin, etc. Où l'amour de soi est vraiment banni, au final.
Peut-être, voilà. Cette forme de résurgence-là, elle est aussi très intéressante, finalement, à étudier. C'est se demander, du coup, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, en tout cas, dans la pensée de Nietzsche, on pourrait se dire qu'il y a la nécessité, en fait, de la résurgence. Si on ne peut pas se faire marcher dessus, et si on veut pouvoir... développer qui on est et ce qu'on se rend en tant qu'individu, il y a cette nécessité-là. Si on ne peut pas être un esclave et donc subir sa vie, il y a cette nécessité, en fait, de ressurgir, quoi. Mais du coup, il nous propose aussi, peut-être, qu'une seule manière de ressurgir, qui est, du coup, par la force et par l'affirmation de la volonté de puissance.
Voilà, il pense très peu à l'association, il pense très peu à l'amitié, il pense très peu à la collectivité. Pour lui, on est un, on est seul de la naissance à la mort, et il faut qu'on s'affirme et qu'on se débrouille dans cette existence, quoi.
Et c'est là qu'on peut aussi, du coup, effectuer une transition sur peut-être un questionnement qu'on peut soulever aussi. Est-ce que c'est possible de ressurgir collectivement ? Est-ce que le puissance... Enfin, parce qu'on a beaucoup parlé, en fait, du fait que c'est soit le sujet qui ressurgit ou qui fait ressurgir, Mais du coup, on a beaucoup pensé de l'individualité à travers ça. Et l'idée que c'est à travers l'œil de l'observateur. On a aussi parlé du fait que ça peut être une famille qui détermine qu'une personne ressurgit au sein de cette famille, etc. Mais du coup, il y a à chaque fois l'idée que c'est un élément qui ressurgit.
Oui, alors que pas forcément, finalement.
En fait, pas forcément. Est-ce que, bah, par exemple, si on regarde dans un contexte militant, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité aussi parfois, pour certaines minorités qui ont été silenciées pendant des siècles et des siècles, de ressurgir et de faire entendre leur voix.
Oui.
Si on pense par exemple au mouvement féministe, il y a quand même cette idée aussi que c'est la collectivité en fait qui donne cette impression de ressurgissement et de résurgence dans l'idée que vraiment c'est le fait qu'il y ait l'addition des voix, l'addition des contestations, l'addition des voilà, enfin la mise en commun en fait de ces souffrances qui de base paraissaient individuelles mais qu'en fait qui en fait sont partagées par les femmes, c'est cette mise en commun qui permet la résurgence des voix féminines et donc la résurgence du féminisme. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de vague du féminisme quand on regarde l'histoire du féminisme. L'idée que en fait, il y a plein de moments, et là on est en plein en plus dans une vague féministe, il y a eu plein de moments dans l'histoire contemporaine où les voix des femmes se sont élevées pour prôner certaines causes. Le droit de vote, le droit à l'avortement, etc. Il y a toujours eu des moments de retombée en fait, où on a l'impression que le féminisme n'existait plus, entre guillemets.
En fait, à chaque fois, il a été recondamné par la pensée commune, la pensée masculine, hein, du coup.
Ou oublié, ou avec l'impression qu'on n'en avait plus besoin, en fait, finalement.
Parce qu'on a acquis des droits, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Exactement.
Et du coup, on n'en parle plus.
Et en fait, il y a eu ce besoin systématique, parce que finalement, on s'est rendu compte que, ah non, en fait, tous les droits ne sont pas acquis, ou... On a l'égalité en droit, mais on n'a pas l'égalité concrète, factuelle. Et en fait, c'est grâce à ces prises de conscience-là, communes, parce que c'est encore une fois grâce à l'interaction entre les femmes et la sororité, notamment, c'est grâce à ce collectif-là, en fait, qu'il y a eu ce ressurgissement, et notamment avec MeToo. Et on le voit très bien, c'est avec la libération de la parole et le fait qu'il y ait un témoignage, puis un autre, puis un autre. Et c'est un peu cet effet de cascade et tout. Et en fait, on revient encore une fois sur la métaphore de l'eau.
Oui,
mais cette
finalement.
Fois-ci dans l'idée que la rivière, c'est un élément. Et en même temps, c'est plein de particules d'eau, entre guillemets, qui s'entraînent les unes avec les autres. Et
qui constituent un seul mouvement.
Qui constituent un seul mouvement.
C'est ça.
Voilà. Et donc, on revient sur la métaphore des vagues, finalement.
Non, c'est très bien, c'est très imagé de parler du féminisme, parce qu'on peut parler en général de résurgence, de mouvements politiques, sociaux, etc.
Exactement. Et donc on voit qu'il y a la puissance, en fait on pourrait même prendre un petit peu de Nietzsche là-dedans, dire qu'il y a la puissance de persévérer dans l'être, mais cette fois-ci c'est pas dans une volonté de domination, c'est dans une volonté de
Il y a quand même la volonté d'émancipation. Mais il y a quand même la volonté de faire comprendre quelque chose aux gens.
C'est ça.
Et c'est pour ça que...
Sans forcément vouloir écraser.
Non, c'est pas vraiment vouloir écraser, mais les suffragettes en France ont eu recours à des actions très violentes, comme faire une grève de la faim, s'attacher... qui avait fait ça ? C'était Émilie... J'ai oublié son nom. Une jeune femme très charmante qui s'était accrochée au barreau du Luxembourg et qui avait décidé de ne plus se nourrir. Il y a aussi... Émilie, j'ai oublié son nom, c'est celle qui s'est suicidée en public, par exemple.
Okay.
Il y a quand même eu des actions fortes.
Oui. C'est des individus, mais qui agissent au nom du collectif.
C'est ça, parce que du coup, elle ne se serait pas suicidée si elle persévérait dans son être.
Ouais.
En fait, elle persévérait dans l'être des femmes au nom du mouvement.
C'est vrai. Donc finalement, il y a même une forme de détachement et de délaissement de soi, enfin, dans un sens, au nom du collectif. Et au nom de... Aussi, du coup, cette idée qu'il y a une... la volonté de s'inclure dans un mouvement collectif et donc la vision... Enfin, on va dire que ces femmes qui se sont sacrifiées, entre guillemets, c'est qu'elles voyaient plus loin qu'elles-mêmes, finalement.
C'est ça.
Et elles percevaient l'être. Et ouais, le fait d'exister comme quelque chose de plus grand que soi,
c'est
aussi.
Ça. Puis elles disaient elles-mêmes, on sait très bien que nous, on se bat, parce que du coup, là, on parle des suffragettes années... Enfin, je parle de ça. Années 30-40, en gros, quand on se battait pour avoir le droit de vote, elles disaient toutes, on sait très bien que nous, on l'aura pas.
Ouais.
On va peut-être pas en bénéficier, mais c'est pas le problème.
Donc, il
faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, sinon...
Et donc là, en fait,
on
perçoit une nécessité de la résurgence.
Là, c'est une nécessité, ouais. Enfin, après, une nécessité, on l'emploie peut-être sur, à tort et à travers, il faut distinguer les nécessités, mais là, c'est une nécessité au sens moral, axiologique.
Oui, complètement.
C'est-à-dire, il faut agir dans ce sens-là parce que c'est juste, Alors que le conatus, par exemple, c'est une nécessité en soi d'être mu par des principes.
J'allais dire, c'est une nécessité ontologique, le conatus.
C'est ça, voilà. Ontologique, mais axiologique.
La vraie question, c'est est-ce qu'on peut pas avoir une nécessité ontologique même là-dedans ? Parce qu'en fait, en tout cas, les, par exemple, les militantes féministes, elles le défendent sous une...
Justement, ça dépend comment tu vois l'histoire,
et c'est
en fait.
C'est en ça que, du coup, ça les pousse à se sacrifier. C'est qu'il y a vraiment une nécessité ontologique de... En fait, si on fait pas ça, pour la vie des autres femmes, ça va être... Enfin, les femmes ont du mal à vivre. Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois, mais je pense que ça reste une nécessité... Pardon, on emploie des termes un peu jargonneux.
Ouais.
Je rappelle, nécessité ontologique, c'est nécessité d'être. Et nécessité axiologique, c'est une nécessité parce que c'est juste, en gros.
Ouais.
Mais là, dans le cas... Enfin,
ça ne t'empêche pas de vivre concrètement.
En fait, c'est ça, c'est que le conatus, c'est une nécessité ontologique au sens où tu es. Tu es, de toute façon.
Ouais.
Alors que là, ça dépend d'actes responsables et libres.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Après, ça dépend comment tu vois l'histoire. Si on part du principe que les choses sont censées se passer ainsi, etc., et que, comme Hegel, on pense que les gens, de toute façon, agissent au nom de l'esprit et que les choses se produisent. Mais si on voit l'histoire comme l'autocréation humaine perpétuelle, moi, je préfère le voir comme ça. Ces femmes-là, au final, elles se sont sacrifiées. Elles se sont battues, elles se battent encore pour des droits, et ça dépend entièrement d'elles. Et je pense que c'est pas utile de leur enlever cette responsabilité-là. Mais quand on parle de nécessité axiologique, c'est quand même très basé sur... De toute façon, elles l'auraient fait. Un peu genre destin, déterminisme.
Ouais.
Enfin, moi, je vois ça comme ça.
Complètement. Mais du coup, j'ai du mal à ne pas avoir une nécessité ontologique quand on sait que, par exemple, actuellement, le combat féministe, c'est un combat qui s'insurge contre les violences faites aux femmes, et notamment... contre les meurtres, les féminicides, en fait. Donc il y a quand même ce truc de si on fait pas ça, on va mourir. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah, tu veux dire survivre ?
Ouais, survivre. Il y a quand même une puissance de persévérer dans l'être, j'ai l'impression en tout cas. Mais bon, voilà, on part un peu dans le débat.
Ouais, c'est vrai qu'on part un peu loin peut-être du terme, mais parce que là, en gros, pour rappel, hein, si on parle de tout ça et qu'on divague un petit peu, c'est parce que ressurgir signifie à la base se refaire entendre.
Exactement.
Enfin, pas forcément à la base, mais c'est un des sens quand même très.
Et donc il y a une nécessité axiologique dans le sens moral, dans le sens. Pour garder nos droits, pour en acquérir de nouveaux. Mmh. Il faut qu'on ressurgisse, il faut qu'il y ait cette résurgence. Mais aussi pour survivre. Parce qu'en fait, il y a cette prise de conscience collective progressive de... En fait, bah, on meurt à cause de ça. Du patriarcat.
Voilà.
Donc, voilà. Mais bien sûr que c'est pas... En fait, c'est encore une fois dans un cadre collectif, parce que toutes les femmes ne meurent pas. Et encore heureux. Il y a encore des femmes sur Terre et on va pas toutes mourir du jour au lendemain si la révolution féministe, entre guillemets, ne se fait pas. Enfin, mais c'est juste l'idée quand même que dans le collectif, et à partir du moment où on prend en compte le mouvement collectif, il y a cette idée que si on ne ressurgit pas, il y a quand même la classe des femmes, entre guillemets, et la survie de la classe des femmes qui
c'est
est
extrêmement
en jeu.
Intéressant parce que je pense qu'en fait c'est partagé par de nombreuses causes hein.
Mais bien sûr c'est l'exemple du féminisme, mais il y a l'exemple aussi de l'antiracisme, de
la plupart des militants j'aime pas dire militantisme, la plupart des mouvements militants
il y a une lutte pour l'existence quand même.
Ouais, voilà, il y a une lutte pour l'existence et la survie, donc en fait oui, on peut parler quand même de
et une lutte pour la reconnaissance.
En fait, si on voit ça d'un point de vue très éloigné, genre depuis l'espace, que tu vois la Terre et que tu vois tous ces mouvements, mais c'est à la même échelle que de l'adaptation du vivant, quoi.
Ouais.
Juste, nous, on a des pensées, des idées, des revendications, des bouquins à lire, mais au final, c'est un peu ce même mouvement, cet ensemble de molécules qui s'adaptent à son milieu. Et voilà, il y avait une puissance dominante, hein, les hommes blancs, et puis maintenant, voilà, tout le monde se bat pour survivre, quoi, et coexister.
Ouais, complètement.
Ouais, c'est assez intéressant d'un point de vue quand même.
Sauf qu'on fait tous partie de la même espèce, et c'est ça qui est assez particulier, c'est que souvent, c'est entre diverses espèces.
Mais ça dépend.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est vrai qu'on a vraiment dézoomé quand même depuis le début de ce podcast. Au début, on était vraiment sur un élément très isolé. Et là, on voit les choses quand même de très, très
dans
loin.
Leur globalité.
Mais c'est vrai que tu as raison de souligner cette... Donc, d'accord, je me rejoins un peu plus à ton coin. nécessité ontologique des mouvements militants, évidemment, oui. Et maintenant, nous allons écouter « Debout les femmes », chantée par le collectif féministe « À nos lèvres révoltées ».
Nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservies. Acheter vent.
Debout les femmes, chantée par Nos Lèvres Révoltées, collectif choral féministe.
Mais du coup, voilà, ça nous conduit quand même à cette question de la nécessité, mm-hmm. puisque
oui,
tu disais...
Il faut qu'on en parle.
Il faut qu'on en parle, et tu disais justement, on aurait tendance à se dire que c'est nécessairement cyclique et qu'il n'y a pas de changement, entre guillemets. C'est ce que tu disais. Il faut quand même souligner le fait que le ressurgissement, c'est quand même un changement, il y a un écart, etc.
Il doit y avoir quelque chose de brutal dans le ressurgissement.
Mais il doit y avoir quelque chose de brutal, mais on peut se demander du coup si cette brutalité n'est pas nécessaire et si on n'a pas besoin de ça pour avancer dans l'existence.
Si. Mais là, alors, on déconstruit carrément le terme, en fait.
Ouais, c'est-à-dire.
Bah, du coup, si on réfléchit bien, parce qu'après, les langues, elles sont pas forcément censées. Hein. Des fois, il y a des mots qui existent, alors qu'ils sont pas censés exister. Hein.
Et puis, en fait, c'est très simplifié. Enfin, c'est généralisant, en fait, une langue.
C'est ça. Parce que moi, j'arrête pas de dire oui, mais il faut que ce soit brusque. En fait, oui, on peut réfléchir à la nature brusque ou pas de ressurgir. Parce que là, on voit quand même de plus en plus que le ressurgissement s'inscrit dans une certaine cyclicité,
ouais.
une certaine naturalité, et elle l'a fait évoluer. Alors, c'est peut-être ouais. genre le principe d'évolution même de la cyclicité.
Ouais.
Et pourquoi je dis ça ? Parce que là, j'ai l'air de vouloir être proche du dictionnaire et tout. C'est vrai, c'est sûr. Mais peut-être qu'en fait, oui, en effet, cette brutalité, elle est même nécessaire. Et dans ce cas-là, bah, de toute façon, tout est un peu ressurgissement.
Ouais.
Et d'autre côté, pourquoi la langue aurait créé ça ? Parce que ça me perturbe de fou.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est perturbant. Mais en fait, je pense que c'est comme beaucoup d'objets philosophiques qu'on peut étudier, c'est qu'il y a une tension, et là, on l'a, notre tension.
La tension, c'est hasard, nécessité.
Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une sorte d'équilibre où est-ce qu'on peut prévoir ou pas le ressurgissement ? Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut prévoir la brutalité ? Est-ce qu'on peut prévoir la surprise ?
Je pense que c'est justement
cette brutalité inattendue.
Parce qu'en fait, on s'attend à ce que les choses reviennent d'une manière ou d'une autre. On attend toujours quelqu'un qui est parti. J'arrête pas de prendre cet exemple.
Non, mais c'est pas grave.
On attend toujours au fond de soi quelqu'un qui est parti ouais. il y a longtemps, etc. Et qu'on attend ressurgir. Mais on s'attend jamais de la manière dont ça va se produire. Ouais. On s'attend jamais de la personne qu'elle est devenue. Et on s'attend jamais non plus à ce que ça va procurer en nous.
En fait, on peut faire des conjectures. On peut imaginer en fait, à l'avance. Mais ça sera jamais comme on l'a imaginé.
C'est ça, la brutalité du ressurgissement, au final, elle se situe vraiment, à mon avis, du côté de la personne qui l'observe.
Ouais.
Le féminisme, c'est brutal pour
les... Dans l'immédiateté, en fait. La brutalité, c'est l'immédiateté. C'est l'idée qu'en fait, à l'instant T, c'est vraiment... On est dans le présent, à l'instant présent, au moment où ça se passe. Il n'y a plus rien qui existe. Et toutes les conjectures qu'on a pu faire avant, tous les trucs qu'on a pu s'imaginer, entre guillemets, ça ne sera jamais fidèle à ce qui se passe, parce que... On ne peut pas prédire le futur, globalement.
Ouais, non, globalement
c'est
oui.
ça, en fait.
Enfin, ça dépend comment on voit le monde, hein, mais...
Ouais.
Enfin, nous, on n'est pas spécialement déterminés, je pense.
Non. On peut en fait, on peut, mais après, on peut prédire des choses, on peut imaginer des choses qui sont très proches de la réalité. C'est évident. Ça
oui,
sera jamais la
quand
réalité.
Même... Oui, voilà. Il y a quand même un déterminisme existant,
oui.
social, historique, etc. Mais il ne faut pas partir du principe que, oui, on peut tout anticiper. C'est juste que oui, je pense vraiment qu'en fait cette brutalité du ressurgir, elle ne se ressent que du côté de la personne qui observe.
Ouais.
Le féminisme, il est brutal bah, pour les hommes qui voulaient pas qu'on ait des droits. Enfin, c'est toujours brutal pour quelqu'un d'autre que pour soi.
Ouais.
Je pense. Hein. Bon, après, quand même.
Et en même temps.
Et en même temps.
Parce que typiquement, moi, je pense à la psychanalyse
ouais.
qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui, ouais, je trouve, est très liée à cette idée du ressurgir. C'est cette idée que finalement, donc. On pourrait lier ça du coup à l'idée de l'inconscient et du fait qu'il y a des choses en fait en nous qui à tout moment peuvent réapparaître, notamment des traumatismes, et c'est Freud qui défend un peu cette idée-là, à travers les actes manqués, les rêves, les psychoses, et l'idée en fait que en nous-mêmes, il y a des choses qui peuvent nous surprendre finalement. Et tu vois, c'est ce que tu disais, c'est celui qui l'observe, mais en fait je pense qu'on peut vivre aussi...
On peut aussi s'observer
soi-même. En fait, on peut ressurgir à soi, mmh. Et c'est le propre d'ailleurs de la réapparition du traumatisme.
Oui,
c'est cette
vrai.
Idée qu'il y a une part de soi qu'on a oubliée, quelque chose qui a été constitutif de notre identité qui réapparaît. Parce que en fait, l'amnésie traumatique, ça existe. Et il y a des gens qui oublient parfois pendant 10 ans des traumatismes qu'ils ont vécus et ça réapparaît. Et donc en fait, il y a une forme de ressurgissement de soi, de réapparition à soi oui. qui est très brusque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les gens qui vivent ça, il y a une forme de choc post-traumatique aussi qui réapparaît.
Ouais, parce que là, c'est le contenu qui est brutal. Et c'est plus du côté de l'observateur, ouais. forcément. C'est même le contenu lui-même qui est...
Oui.
Parce que c'est traumatisant, par essence. Donc,
complètement. Oui, bien sûr.
Donc là, n'importe qui recevrait le traumatisme de façon brutale.
Ouais.
Quoi.
Ouais, ouais. Mais du coup, c'est l'idée que du coup, on n'arrive plus à se poser en fait en observateur vis-à-vis de soi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, en fait.
Qui est très compliqué.
C'est l'idée que le ressurgissement, en fait, il nous arrive, mais on est la cause de notre ressurgissement. Enfin, du ressurgissement qui nous arrive. Tu vois ce que
on
je veux dire?
On est le support aussi.
On est en fait, on est tout. On condense tout. Et c'est un truc qui est vraiment propre pour le coup au sujet conscient et genre et à l'humain entre guillemets. Et après on sait pas ce qui se passe dans la tête des animaux hein, mais tout ce qu'on sait c'est que toutes les preuves qu'on a pu avoir nous ont montré que on est les seuls sujets conscients, enfin on pense être les seuls individus.
Non, mais je pense que oui, un chat peut être traumatisé par un accident de voiture, mais il va pas.
C'est vrai qu'il y a des chats qui ont de l'anxiété.
Et oui, mais il va peut-être pas ressurgir à lui-même. C'est plutôt ça. Oui. Je pense qu'il va s'en rappeler, le chat, parce qu'il a aucune raison d'oublier l'accident de voiture ou je sais pas quel trauma.
Mais du coup, dans cette idée.
C'est propre au sujet conscient, je pense.
Dans cette idée du ressurgissement du traumatisme, dans cette idée de la résurgence du traumatisme, il y a aussi du coup l'idée de la nécessité et l'idée de. En fait, tout réapparaît toujours. Cette idée que, et d'ailleurs c'est ce que Freud défend aussi, c'est l'idée que même si on a essayé de refouler des choses, des mauvaises choses qui nous sont arrivées, elles réapparaissent et elles se traduisent dans d'autres aspects de nos comportements. Donc ça peut être du coup le traumatisme, et ça c'est vraiment le truc le plus violent de... Et d'ailleurs c'est le but de la psychanalyse et de la cure analytique, c'est de faire ressurgir des choses qui ont été vécues.
Oui, surtout la psychanalyse.
Mais déjà avant même que ça réapparaisse en fait à travers... le traumatisme tel qu'on peut le concevoir et le souvenir, en fait, ça réapparaît à travers des actes manqués. Donc ça va être des comportements semi-conscients, en fait, qu'on va avoir et qui vont
détecter.
Voilà. Ensuite, les psychoses, donc ça va être typiquement des pathologies, en fait, et des actions qui nous rongent. Et en fait, on ne sait pas forcément d'où elles viennent. Des actions qui sont semi-conscientes, encore une fois. Mais qui viennent
de la psychose, je trouve que c'est super particulier parce que justement c'est en fait la psychose en tant que telle, elle peut apparaître comme un ressurgissement.
Ouais, c'est ça.
C'est là que tu deviens fou, enfin tu deviens pas fou, au contraire justement. En gros, si tu fais une psychose après avoir été traumatisé des années avant, c'est juste là tu commences à te comporter de façon hyper chelou, dire des trucs hyper chelous, et tu vas pas forcément t'en rappeler en plus de la psychose. C'est ça le pire au final, c'est que tu as ce moment d'absence où tu ressurgis et après tu redeviens normal entre guillemets et ça se voile d'un filtre opaque, quoi. Et après, c'est à des spécialistes de détecter, etc. Et c'est ça qui est rebut en psycho, c'est que tu oublies, tu t'es senti aliéné, alors qu'au contraire, tu étais loin d'être aliéné.
Ouais.
En fait, tu étais toi-même. Et c'est ça qui est le pire, je pense, après une crise psychotique, ou même après des blackouts, où tu fais n'importe quoi, tu vois. Il y a quand même tous des moments où on ressurgit à nous-mêmes. Mm. Tout le monde peut l'expérimenter d'une manière ou d'une autre, on commence à se comporter de façon violente, et en fait, c'était toi.
Ouais.
Et c'est ça le pire, c'est que tu t'es senti aliéné. Mais c'était bien toi. C'est ça qui te fait encore plus bader, je pense.
Ouais. Mais du coup, en fait, dans la psychose, du coup, en fait, on peut se demander, est-ce qu'on peut prévoir le ressurgissement du traumatisme à travers la psychose? Est-ce que c'est pas... Parce qu'en fait, Freud y voit des signes annonciateurs du traumatisme. Et du coup, en fait, c'est déjà des ressurgissements, mais des ressurgissements différents de ce qui va pouvoir, enfin du ressurgissement, de la résurgence qui va arriver au moment de la cure analytique, quand le traumatisme, le réel traumatisme, va réapparaître, le souvenir. Et du coup, on peut se demander, c'est brutal, et l'apparition du traumatisme va être brutale, mais elle aura été un peu prévisible. En tout cas, du point de vue de l'observateur, il y aura eu, du point de vue du thérapeute, il y aura eu ce truc de « je l'ai vu venir », quoi.
Après, il y a un capital intellectuel, quoi, qui permet de détecter ça.
Oui.
Genre un capital culturel, machin.
Complètement, complètement. Non, mais c'est pas... Quoi. Bien sûr, mais du coup,
des signes latents.
Il y a des signes, en fait, de la résurgence. Il y a des signes du ressurgissement. Et donc, même s'il est imprévisible, il est quand même un peu tacite, parfois.
Et ouais, l'exemple de...
Par exemple, on peut reprendre même l'exemple des vagues du féminisme. Il y a des signes tacites avant... En fait, il y a ce truc de... On s'y attendait pas, mais en même temps, ça fait des années qu'il y a des... Enfin, que je veux dire, pour MeToo, c'est une accumulation progressive de violences sexuelles et sexistes qui, en fait, a posteriori, quand on pose un regard rétrospectif, on se dit, en fait, oui, ça devait arriver. Parce que petit à petit, avec toute cette amas de violences, il y avait forcément un moment où ça allait exploser, entre guillemets. C'est aussi un peu l'idée de l'accumulation. Et peut-être que du coup, il y a des ressurgissements qui sont plus forts que d'autres. Qu'il y a des. Tu vois ce que je veux dire? Des résurgences qui sont. Oui. Plus puissante que d'autres. Tu penses qu'il n'y a pas des trucs qui peuvent être morts et revivre?
Non.
Non. Tu penses vraiment qu'il y a que les choses, quand elles sont mortes Il y a vraiment... Parce que tu vois,
la résurrection, c'est le vivant... Jésus-Christ, genre.
Ah ben... Après, ça, c'est vraiment une question de croyance religieuse, pour le coup, et chacun croit ce qu'il veut.
Oui, pardon, excusez-moi, on n'est pas... Enfin, moi, je suis pas spécialement...
Non, mais bien sûr, mais rationnellement, en fait, c'est là que on rentre en jeu la foi, et c'est là que ça devient vraiment une croyance pure, c'est que t'as aucune preuve. Bon, après, les croyants te trouveront des preuves, mais t'as aucune preuve concrète, matérielle, que la résurrection d'un être existe. Mmh. Et c'est ça, le mystère de la foi. Et d'ailleurs, c'est ça qui constitue la religion. Et c'est en ça, du coup, qu'on distingue vraiment la résurrection de la résurgence, parce que la résurrection a vraiment quelque chose de miraculeux et d'imprévisible, mais vraiment... Enfin, si, d'imprévisible, complètement imprévisible, et de mystique. Enfin, chose que la résurgence peut, en fait... On peut déguiser la résurgence sous quelque chose de mystique un peu, et le rendre épique.
On peut le rendre épique, après ça reste quelque chose qui se produit, comme on l'a un peu dit en introduction.
Et auquel on peut s'attendre.
On peut s'attendre, et tout le monde expérimente au moins une fois dans sa vie un peu quand même des épisodes de ressurgir. Tout le monde sait fondamentalement,
et même si c'est brutal, même si c'est surprenant sur le moment, mais pas dans l'absolu en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas surprenant de oh, mais en fait, ça existe les choses qui ressurgissent. Non, on le sait. On le sait qu'il y a des choses qui ressurgissent.
C'est surprenant pour personne.
On sait qu'il y a des traumatismes qui ressurgissent. On sait qu'il y a des... On sait que, je sais pas moi, il y a des conflits politiques qui ressurgissent. On sait qu'une rivière, elle peut rejaillir de l'autre côté de la montagne.
C'est ça, exactement. Parce que ressurgir s'applique à tout, quasiment. Enfin, à énormément d'objets différents.
Exactement.
Un humain, un mouvement, une rivière, un objet. En fait, ressurgir, c'est un terme qui est quand même assez large, là où la résurrection se concentre quand même sur la renaissance d'un être.
Ouais.
Et la renaissance absolue de cet être.
Exactement.
Qui renaît pour s'imposer ensuite.
C'est ça. Et c'est que la naissance est déjà quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que la naissance, ça nous est imposé. Du coup, la renaissance, il y a encore cette idée de. En fait, on réitère un processus qui est déjà de base et absolu. Enfin,
c'est ça.
Parce qu'on sait que la vie se résume à la naissance et à la mort.
Oui, voilà.
Dans l'idée, quoi.
Et moi, j'ai une lecture. Après, voilà, on est... comme c'est aussi des questions un peu de croyance, on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus. Moi, j'ai quand même une vision assez démystifiée des textes, des écritures, etc. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment une fonction symbolique du texte.
Oui,
quoi.
Complètement.
Comme avec les mythes. En fait, on a des mythes de renaissance, de résurrection aussi. Hein. Dionysos qui est d'abord dans le ventre de Sémélé. Ensuite, Héra vient tuer Sémélé. Donc, Zeus récupère l'embryon et le met dans sa cuisse. Et donc, en fait, là, c'est pas tellement renaissance, mais un peu quand même, parce que l'embryon est censé être décédé. Et en fait, Dionysos naît deux fois.
Ouais.
C'est pour ça qu'il est direct adulte. Okay. Est direct. Non, parce que oui, c'est vrai que dans les métamorphoses d'Ovide, il y a quand même cette idée que, bah voilà, typiquement, métamorphose, forme de renaissance sous une autre forme. Là, on parle vraiment de la renaissance, par exemple, de Dionysos, d'un passage d'une vie à une autre vie, à une autre forme. Et Dionysos, il va être direct sage parce qu'il est né deux fois. Donc il y a quand même cette idée que la renaissance, c'est revenir pour s'imposer, s'affirmer, etc. Mais c'est des fonctions symboliques, pas parce qu'on veut que les gens y croient. En fait, les Grecs, ils croyaient pas au mythe.
Non.
Du tout. La plupart des chrétiens croient pas vraiment au mystère de la foi. Enfin, je sais pas, moi. Mais...
Je pense que si. Je pense que ça, après, tu vois, parce que quand même, tu vois, on n'était pas au temps des Grecs. Je pense que ils faisaient quand même des sacrifices, ce genre de choses.
Oui, mais ils savaient ne pas y croire. Ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs, dans les textes.
Ouais, ça dépend lesquels,
je pense. Ne pas croire au mythe, etc. En fait, la religion chez les Grecs... Bon, là, du coup, on s'éloigne encore un peu de notre sujet, mais c'est pas grave. La religion chez les Grecs, c'est quelque chose de très social.
Ouais.
Ils croient pas aux dieux en fait.
C'est pour faire communauté.
Pas vraiment. C'est qu'ils honorent et c'est une fonction vraiment sociale de la religion, du rite, du sacrifice. On se rejoint au temple tout à l'heure, Je te jure. Ils les racontent et en fait, c'est vraiment toute une narration. Les Grecs, ils étaient quand même beaucoup plus conscients de cet aspect narratif du mythe.
Okay.
Parce que d'abord, c'est assez oral et tout. Ils se racontent les mythes, machin. Et voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à la fonction symbolique, c'est aussi une manière de raconter la nature humaine.
Mmh.
On peut renaître, on peut se résurrecter d'une certaine manière.
Ouais.
Et c'est juste raconté de manière grave plus extrême.
Oui.
La résurgence en tant que telle.
Mais alors, c'est ça, d'une façon d'un extrême. Point de vue purement pragmatique, bien sûr.
Ouais,
et
c'est qu'un point de vue pragmatique que je vous expose ici sur le texte.
Tu vois, mais en même temps, du coup, je comprends, en fait. Enfin, c'est justement le côté mystique et miraculeux de la résurrection qui a fait qu'on a fondé une religion sur ça, typiquement.
Ça.
Et en fait, c'est que nous, on n'était pas là à l'époque, mais. Il y a forcément des gens qui ont cru en cette résurrection-là.
Oui, oui.
Et c'est ça, en fait, c'est l'idée de croire en un truc complètement impossible, en fait, dans les faits, qui a permis de fonder une religion sur un mythe de la résurrection. Mais
de toute façon, pour nous, c'est un mythe. Des religions qui sont très puissantes, hein, les religions monothéistes, contrairement aux polythéistes.
Pour nous, c'est un mythe, mais c'est le principe même de le fait, comment dire. C'est un peu c'est pas la croyance par défaut parce que ça serait dévaloriser aussi, tu vois, la foi. J'ai pas envie de dévaloriser la foi des gens,
non, pas du tout.
Mais c'est l'idée que vu qu'on n'a pas de preuve du contraire, le mythe existe et le, la possibilité que la résurrection existe et que la renaissance existe est maintenue. Et donc, c'est en ça, du coup, que c'est complètement différent de la résurgence. Mmh. Parce que la résurrection, en fait, on pourra jamais la prévoir, mais on pourra jamais aussi la discréditer complètement. Et on peut dire, en fait, je pense qu'on peut quand même dire que certaines choses ne ressurgiront pas. Je sais pas. Chose qu'on peut pas forcément faire avec la résurrection.
À mon avis, il y a toutes les choses oubliées. Je pense qu'il y en a plus, de choses oubliées dans le monde, dans l'histoire, que de choses qui ont
été retenues. Typiquement, les espèces qui ont été éteintes, tu vois.
Ouais. Les choses qui ressurgissent jamais. Du coup, il n'y a pas de nécessité interne, en fait. Donc, ressurgir se distingue à la fois de revenir, mais aussi de renaître.
Mais j'allais te dire, au final, la résurgence, ça apparaît comme la notion la plus modérée.
Oui.
En fait, la résurgence, c'est ce qui nous permet vraiment de comprendre à la fois la surprise et la nécessité, finalement. Et de ne pas tendre d'un extrême à un autre.
On vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Radio Pium, diffusé un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris, fréquence 93.9. C'était Maëlle et Marianne au micro, et n'hésitez pas à nous contacter à opium.radiopium@gmail.com si vous avez des questions ou des idées à nous proposer. Bonne écoute et à dans un moment.